DW, le club de l'auditeur.
Libérer le pouvoir de la jeunesse, c'est le thème cette année de la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines. On en parle dans cette édition du club, animée par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous. Un grand merci à tous ceux qui nous envoient de gentils mots ou commentaires sur nos réseaux sociaux, comme Oui de Pékin en Chine, Joseph de Lomé au Togo, Bouddha de Bouaké en Côte d'Ivoire, Ousmane de Mopti au Mali, Shams de Goma en RDC et Ousmane d'Amtiman au Tchad. Et puis, nos meilleurs vœux à tous ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, comme Rachid d'Abomey-Calavi au Bénin, Gildas de Boisflay en Côte d'Ivoire, Nouhoun de Bamako au Mali, Amadou de Gekedou en Guinée, Richard de Kigali au Rwanda et Patrick de Kinshasa en RDC. Ce sera le 6 février, la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une journée désignée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies et dans le but d'intensifier l'action mondiale pour éliminer cette pratique. Pour rappel, les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. L'objectif, c'est maintenant de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Le docteur Maurice Anda Kouyaté, directeur exécutif du comité inter-africain, travaille depuis des années dans ce sens et n'a de cesse de rappeler que l'islam n'exige pas que les filles soient excisées. Pourtant, plus de 200 millions de femmes continuent de subir les effets de cette pratique dans le monde. Le docteur Kouyaté nous dit en quoi consisteront donc les actions pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans les années à venir, et tout particulièrement cette année, dont le thème est « Libérer le pouvoir de la jeunesse ».
Il y aura beaucoup de campagnes et surtout nous voulons axer la campagne sur les adolescents, les jeunes, filles et garçons, parce que nous pensons que les populations montantes peuvent être mieux informées et peuvent plus se prêter au changement que les anciennes populations. Donc, nous voulons profiter de ça et profiter aussi de larges moyens de communication et d'information qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et puis les formations dans les écoles, dans les universités, partout dans les familles, dans les préscolaires. Nous voulons profiter de tout cela pour mettre l'accent sur l'information et l'éducation des jeunes et des adolescents contre les mutilations génitales féminines.
Oui, mais alors concrètement, comment ça va se passer? Parce que ça veut dire aussi débloquer des sommes importantes pour ça et descendre sur le terrain.
Oui, absolument. Ça, c'est un travail qui va se situer aux trois niveaux. D'abord, le niveau international, où on a déjà le cadre. Bon, on va informer à travers les radios internationales comme la vôtre, par exemple, la Téchevelet. Et on va aussi parler dans les grands forats, les conférences au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations internationales, régionales, sous-régionales. Et puis, il y aura aussi un focus au niveau africain, parce que l'Union africaine soutient beaucoup la lutte actuellement contre les mutilations génitales féminines. Et ce que nous voulons faire, c'est qu'au niveau régional, qu'il y ait de la sensibilisation, du plaidoyer, que les chefs d'État en parlent, que les ministres en parlent, que dans les organisations sous-régionales qu'on en parle. Mais surtout, nous voulons axer sur le niveau national. Au niveau national, on veut aller sur le terrain pour que les jeunes soient directement en face de l'information sur les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce que c'est que les mutilations génitales féminines? Pourquoi cela se fait? Quelles sont les conséquences? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? Et quelle est leur capacité d'influencer positivement la lutte? C'est ce que nous voulons faire avec les jeunes. Donc, nous allons aller dans... C'est tout le monde entier, hein, c'est aller dans les écoles, les écoles préscolaires, les écoles primaires, les écoles secondaires, dans les lycées, on va aller leur parler. Et même aussi dans les villages où il n'y a pas d'école, c'est rencontrer la jeunesse, rencontrer les adolescents, leurs parents et revitaliser la campagne pour ça. Ça ne demande pas des millions de dollars. Ça demande de l'engagement, et de l'abnégation et de la persévérance.
Oui, parce que d'après les chiffres de l'ONU, en effet, on dit que les 30 pays où les mutilations génitales féminines sont les plus répandues ont une population en effet très jeune, dont au moins 30% sont des jeunes filles de moins de 15 ans. Et on dit aussi que ces pratiques sont de moins en moins acceptées chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans. Mais en réalité, sur le terrain, il semble quand même que les transitions persistent et les pressions aussi soient très fortes, parce que lorsque, il y a quelques mois, les chefs religieux et traditionnels avait même prononcé une fatwa. J'avais interviewé une jeune guinéenne, Idrissa Abba, qui est présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. Et elle était très fâchée, en fait, parce qu'elle disait « Oui, nous, on nous abandonne en réalité. Tout ça, c'est des palabres. Ce sont des gens qui mangent bien, qui vont dans des hôtels un petit peu à travers le monde. Mais nous, sur le terrain, quand on descend sur le terrain pour parler aux jeunes filles et aux jeunes et dans les classes, on ne nous respecte pas. On a beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'il y a toujours cette persistance des anciens, des chefs religieux, qui ne disent rien en réalité. Elle se sentait un petit peu lâchée. Elle accusait un petit peu les leaders religieux à faire beaucoup de bruit dans la presse, mais pas à descendre sur le terrain pour que les gens l'entendent d'eux-mêmes. Et elle disait, ils ne vont pas dans les communautés, dans les mosquées pour faire des prêches. Ce qui fait qu'elle, quand elle est à la rencontre des jeunes, on lui a dit, oui, mais ça, c'est toi qui dis ça. Vous, vous êtes envoyé par des blancs. Mais où sont les chefs religieux? Eux, ils ne disent rien. Qu'est-ce que vous en dites?
Ça, c'est de la nature de la jeunesse, de se fâcher, de se révolter. Il y a 36 ans, je faisais la même chose. Quand j'ai commencé la lutte, j'étais comme ça. J'insultais presque tout le monde et je voyais que ça ne bougeait pas. J'étais révolté. Cela a sa place. La jeunesse, en se révoltant, elle influence la lutte. Ça, c'est d'un côté. Mais il y a eu un grand pas quand même. Vous avez parlé, par exemple, d'une activiste guinéenne.
Oui, justement.
Je peux vous dire aussi qu'au niveau de la Guinée, ce qui s'est passé tout dernièrement, c'est que dans une classe, il y a une fille qui devait être excisée et envoyée chez son mari en mariage d'enfant. Les filles de la classe, de l'école, se sont organisées. Elles ont porté plainte et le mariage a été annulé. Les filles elles-mêmes. Donc, c'est un très grand pas. Là, on n'a pas parlé de leaders religieux, on n'a pas parlé de parents. On n'a pas parlé de l'État, on n'a pas parlé de vieilles personnes. Ce sont les filles elles-mêmes qui se sont prises en charge pour dire non à l'excision et au mariage d'une de leurs camarades de classe. Ça, c'est une grande avancée. C'est pour ça que cette année, nous voulons faire fructifier cette initiative. Et en réalité, on a passé 30 ans, ces 30 dernières années, à dénoncer les leaders religieux, à dénoncer tout le monde. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des fatwas contre les mutilations génitales féminines. Pour nous, c'est largement suffisant que des leaders religieux viennent dire « Nous portons un coup de semonce, ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans la Bible. » Ok, c'est ce que nous voulons. Le reste, c'est nous. Nous devons maintenant faire du porte-à-porte avec ces fatwas, avec ces engagements, mais on n'est pas dupes non plus. Il y aura toujours des petits malins ou des gens en quête de notoriété qui vont se lever avec le Coran sous la main, sous les aisselles ou bien la Bible en disant non, non. Bon, c'est un peu moins pour la Bible, mais en mentant sur le Coran, en mentant sur l'islam, mais ils sont minoritaires aujourd'hui. Alors il faut renforcer, cette participation des jeunes, que je salue d'ailleurs.
Justement, cette jeune fille, elle dit qu'en effet, sur le mariage forcé, c'est plus facile enfin, de changer un petit peu les traditions, que les choses changent et que c'est mieux accepté. Mais sur ce qui concerne les mutilations génitales féminines, c'est encore un peu difficile, surtout à l'intérieur, hein, dans les communautés. Et elle pensait qu'il serait souhaitable qu'il y ait des campagnes, mais en langue nationale aussi, vraiment sur le terrain.
C'est justement ce que nous avons toujours fait. Hein. C'est que simplement, il est très difficile de faire changer les comportements. Mais c'est ce qu'on a fait. Les sensibilisations, c'est jamais seulement en français. Quand vous allez dans un village où il y a 80% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, vous êtes obligé de leur parler dans leur langue nationale.
Oui, voilà, les différentes langues nationales.
Les différentes langues nationales. Donc, on a toujours développé des outils de sensibilisation, de plaidoyer en langue nationale. En réalité, c'est que ce sont des pratiques qui sont dures, qui sont difficiles à faire bouger. C'est ça la réalité. Mais ce que nous pouvons dire et qui nous galvanise le plus, c'est que partout dans le monde, j'ai les chiffres, partout dans le monde, les chiffres sont à la baisse. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas de différence dans la sensibilisation, dans la résistance entre les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines. Les gens qui pratiquent ça ont les mêmes raisonnements. Ils disent, voilà, si on ne fait pas ça, la fille ne sera pas éduquée, son éducation sera ratée, ça a été dicté par la religion. C'est les mêmes fondements. C'est pourquoi on n'a même pas besoin de réinventer la roue. C'est la même façon que nous faisons pour sensibiliser sur les mariages d'enfants, que nous faisons pour les mutilations génitales féminines. Quand nous avons créé le comité interafricain en 1984, c'est ce que nous avions couplé la lutte. Hein. Oui. Mais à ce moment, personne ne nous écoutait. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a une jonction des luttes, puisque c'est les mêmes arguments que nous utilisons. Bref, nous sommes tous fâchés que ça ne bouge pas comme le goudrillon, moi le premier. Mais j'avoue aussi qu'il y a cette appropriation de la jeunesse, cette appropriation du bas, que maintenant les gens se disent, écoutez, nous avons vu les conséquences, nous pensons qu'on n'a pas besoin d'un marabout pour venir nous expliquer ce qui peut se passer sur le terrain. On a vu des images, on n'a pas besoin d'un professeur d'université pour venir nous expliquer. On a déjà vu les conséquences.
Et voilà, justement, docteur, c'est peut-être le moment de rappeler d'ailleurs les conséquences. Vous-même, vous êtes bien placé pour le savoir, peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on souvent on dit, bon ben voilà, ce sont nos traditions, il y a une certaine valeur culturelle, ainsi de suite, mais ça entraîne des conséquences graves.
Et très graves, ce sont des conséquences très graves. D'abord, on va s'attaquer à l'anatomie et à la physiologie de la fille.
Oui.
Donc c'est une agression d'abord, c'est une violation de l'intégrité physique. Et dans quelles conditions? On ne le répétera jamais assez. D'abord, la douleur qui sous-tend cela. Parce que tout cela se fait sans anesthésie, il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de filles qui meurent sous le choc douloureux. Ça, c'est une première conséquence immédiate. Il y a des filles qui saignent pendant les mutilations génitales féminines, qui peuvent mourir déjà d'anémie aiguë. Il y a
des hémorragies,
des infections, l'hémorragie qui peut la vider de son sang.
Et les
infections, les tétanos, tout cela, la septicémie, toutes ces choses qui peuvent arriver à la fille. Et malheureusement, dans les villages les plus reculés, on dit non, elle est sorcière, c'est tout. Les autres ne sont pas tombés malades et tout.
Mais, et les traumatismes aussi qui en résultent après.
Les traumatismes. Et ce qui arrive souvent, il y a toute une génération qui peut partir. Si jamais il y a une parmi les filles à exciser qui a une maladie infectieuse transmissible comme le VIH-Sida, par exemple, elle peut, si elle est excisée en amont, toutes les autres peuvent avoir l'infection en aval. Et vous voyez que tout un groupe qui a été excisé se met à mourir ensemble. Et puis voilà, la seule explication, on dit, oh, ils n'ont pas de chance, peut-être qu'ils ont été condamnés par Dieu, par la malédiction. Ça. Il y en a qui font des infections. Et les infections là peuvent détruire, facilement à l'expression, l'organe génital externe et interne de la jeune fille. Et en fin de compte, ce sont les mêmes filles que vous voyez quand elles sont mariées. C'est elles qui font le tour des hôpitaux pour chercher à avoir un enfant. Mais souvent, c'est compliqué parce que ce sont des conséquences graves de mutilations génitales féminines. Mais il y a une autre conséquence plus grave. C'est que c'est aussi la cause de certaines dislocations des familles. Avec toute la dyspareunie, avec ces complications, les cicatrices kéloïdes qu'il y a et tout, les parents ou le mari de la femme nouvellement mariée qui souffre de ces conséquences ne voient pas que ce sont les mutilations génitales féminines. Ils pensent que c'est une sorcière, pensent qu'elle a une malformation, pensent qu'elle refuse de faire les rapports sexuels avec lui parce qu'elle fait semblant que c'est douloureux alors que ce n'est pas douloureux. Voilà comment, voilà des choses qui passent dans la tête des populations.
Oui, alors qu'eux croient que ce n'est pas douloureux, oui.
Alors qu'eux, ils croient que ce n'est pas douloureux. Voilà, c'est exactement comme les pères de famille qui sont sous les manguiers et qui attendent que leur femme accouche. Et puis la femme accouche et ils disent, on dit, ah, ça a été difficile. Ils disent, oh, ça n'a pas été difficile. Moi, j'étais là, en 15 minutes, elle a pu accoucher. Voilà des choses. Mais c'est pourquoi il faut mettre le doigt sur les choses. Et tout cela, on doit le dire aux populations, parce que ce n'est pas évident pour elles, à la base, de le savoir.
Mais dans certains pays, justement, pour éviter les infections, parce que vous disiez que ça se fait sans anesthésie, ainsi de suite, mais dans certains pays, on envoie finalement les filles à l'hôpital. Les médecins continuent à pratiquer ces mutilations, mais à l'hôpital. Mais ce n'est pas mieux, finalement.
Non, notre problème, c'est quoi? Il faut laisser les filles intactes, avec comme Dieu les a créées. Voilà, c'est tout. Alors, qu'on enlève cet organe-là chez la fille, à la maison, en brousse, à l'hôpital, où que ce soit, c'est une agression, c'est une violation, c'est une diminution de la fille. Et c'est ça qu'il faut condamner. Ce n'est pas la manière, ce n'est pas le lieu où on fait la mutilation génitale. Mais malheureusement, je dois concéder, je dois reconnaître que quand nous avons commencé il y a une trentaine d'années, nous avons beaucoup mis l'accent sur le côté médical, le côté santé. Alors les populations qui ne voulaient pas se séparer de leur tradition ont dit « bon, mais si c'est la santé, si ce sont les conditions qui sont mauvaises, nous allons le faire dans des conditions propres, entre guillemets, nous les amenons à l'hôpital. Voilà comment le personnel médical s'est retrouvé dedans. Et ils sont allés trouver des sages-femmes, des infirmières, pas toutes, qui étaient disposées à prendre le relais des excisions traditionnelles. Bon, monnayant souvent quelques francs, donc on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle dans la lutte la médicalisation des mutilations génitales féminines, de l'excision.
Voilà. Qui était un mieux par rapport aux vieilles femmes qui faisaient ça avec des lames de rasoir rouillées, ainsi de suite, mais qui reste toujours quand même, évidemment, une blessure.
Qui est même une insulte à la profession de médecin. Moi-même, je suis médecin. Qui est une insulte, c'est les médecins qui devraient être au front pour dire non, on ne fait pas comme ça. Alors, quand on retrouve la pratique dans les hôpitaux ou alors par du personnel médical hors des hôpitaux, ce qu'on appelle la médicalisation, c'est une honte pour nous. Et je crois que, bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont. Hein. C'est le personnel subalterne, des infirmières, quelques sages-femmes, des matrones, des assistantes, c'est elles qui font. Mais je crois que le personnel médical tout entier doit s'engager pour mettre fin à cette pratique, et à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur des centres de santé.
Mais alors, qu'en est-il de la loi, docteur? Parce que bon, on fait des campagnes, ça fait des années en effet, vous êtes à la tête de la lutte, certes, mais ce que disait cette jeune fille, par exemple, aussi en Guinée, c'est qu'elle avait des difficultés quand elle va à la rencontre des populations. On lui dit, mais voilà, on en veut pour preuve que ceux qui ont pratiqué ça ne sont pas punis, ils sont tranquilles à la maison. Donc, qu'en est-il de la loi? Est-ce que, en effet, appliquer des sanctions, que ce soit contre le personnel médical ou n'importe qui, ou les parents même, qui forcent leurs filles à être excisées, si c'était puni, ce serait peut-être quand même plus dissuasif?
Oui, mais bien sûr, la loi, il y a quelques 15 années en arrière, on avait de la peine à convaincre nos partenaires, à tous les niveaux, d'abord d'avoir des lois contre les mutilations génitales féminines, et puis de les appliquer. Parce que les gens trouvaient que ce n'était pas nécessaire, qu'on ne va pas se mettre à emprisonner une vieille femme qui voudrait faire du bien pour sa petite fille, et donc qui la soumet à la pratique.
Oui, souvent pendant les vacances d'ailleurs, oui.
Oui, et que ce n'est pas fait dans le but de faire du mal, etc. C'est des faux arguments, tout ça là. Alors, en réalité, la loi, ça fonctionne dans beaucoup de pays.
Est-ce qu'il y a des pays déjà exemplaires, justement?
En Éthiopie, il y a la loi, on l'applique, ça fonctionne. Au Burkina Faso, il y a la loi, on applique, ça fonctionne. En Côte d'Ivoire, il y a la loi, on applique, ça fonctionne. En Guinée, récemment, je crois il y a 4 ou 5 mois, il y a eu un procès retentissant à l'intérieur du pays pour punir des peines de prison fermes et des amendes pour des personnes qui se sont rendues victimes de cela.
Et qui ont été vraiment mises en pratique.
Qui ont été mises en pratique.
Appliquées.
Donc ça avance. Ça avance. C'est vrai qu'on voudrait que chaque cas soit puni par la prison ou par les amendes. Mais il s'agit de faire changer les mentalités des gens. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. Mais en faisant des procès retentissants comme ça, c'est à la fois punitif, mais c'est dissuasif aussi.
C'est ça, surtout.
Alors, donc, quand on dit que les lois, ça ne marche pas et tout, nous avons entendu ça. Hein. Et ça, c'était à tous les niveaux. Personne ne voulait entendre parler de loi. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on est en train de l'appliquer. C'est un combat. C'est un combat, madame. Il faut que nous soyons persévérants. Utiliser tout ce que nous avons comme arsenal contre cette pratique et être persévérants. Continuer à sensibiliser, à faire le plaidoyer, à punir. C'est tout ça, à reconvertir les exigeuses, c'est tout ça qui se met ensemble. On connaît la solution, mais il s'agit de l'appliquer pour longtemps. Et c'est ça qui est la grande difficulté, parce que les gens sont pressés. Hein. Il y en a qui commencent à travailler là-dessus, ils disent, bon, ça ne bouge pas, moi j'ai fait 10 ans, et puis j'ai fait bouger que 2-3 points, alors je vais faire autre chose. Ah, non, on doit être persévérant, percutant, et on doit être intolérant vis-à-vis des mutilations génitales féminines et inculquer cela dans la tête des jeunes et des adolescents qui vont prendre la relève et qui, eux, iront plus vite que nous, j'espère.
Vous avez donc bon espoir dans la jeunesse pour que eux soient le fer de lance de cette bataille cette année 2020.
Absolument. Cette année, le thème est dédié aux adolescents et aux jeunes, filles et garçons. Nous sommes convaincus que c'est ça la solution. Les jeunes générations qui vont dire nous sommes en train de créer, participer à la création d'un monde nouveau dans tous les sens. Alors c'est un monde sans mutilation génitale féminine. C'est une aberration. C'est une aberration, on ne comprend pas. Pourquoi couper une fille pour rien.
Mais c'est aussi une façon de garder le pouvoir aussi, hein. Parce que les hommes ont peur aussi de l'infidélité. Ça persiste quand même toujours très fort aussi, indépendamment de la loi de Dieu ou d'autres qui considèrent que c'est une valeur culturelle. Mais c'est surtout aussi la peur de l'infidélité. C'est un moyen de garder le contrôle sur les filles et sur les femmes.
Par le temps qui court, vous savez très bien combien de fois on ment sur Dieu pour faire n'importe quoi. Les gens tuent au nom de Dieu. Et les gens agressent au nom de Dieu, ils font les mutilations, ils font les mariages d'enfants, tout cela au nom de Dieu. Ils devraient avoir peur de ça s'ils croient en Dieu. Mais en réalité, madame, ce sont des faux instruments qu'on utilise pour imposer le patriarcat, pour imposer la domination de l'homme sur la femme.
Voilà.
C'est ça. On pense qu'en lui enlevant son organe, qu'elle va s'asseoir à la maison, elle va aller nulle part. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, madame? Alors, pourquoi on va, elle, la mettre à la maison pour un homme qui, lui, est dehors? Il a deux, trois, quatre femmes, il est dehors, il a des maîtresses dehors, lui, il est libre. Je n'incite pas les femmes à aller dehors, non, pas du tout. Mais au moins, si ça diminue leur libido comme ils veulent le faire, mais pourquoi sa libido diminuerait pour son mari? Pourquoi ne va-t-elle pas jouir de sa libido face à son mari en communion? Pourquoi? Ce sont des faux arguments, ce n'est pas vrai du tout. C'est une façon de dominer les femmes. Mais encore, comme je l'ai dit pour les jeunes, les femmes se libèrent et elles se libéreront de tout cela, madame.
Mais pour se libérer, il faut aussi une certaine indépendance, avoir un certain pouvoir, notamment économique. C'est un tout, hein, ça va avec toute la société aussi.
Ah mais bien sûr, c'est pourquoi dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, nous avons mis la reconversion des exigeuses des communautés en disant aux gens, écoutez, vous, on vous sensibilise, vous comprenez, vous arrêtez et puis nous vous assistons pour mettre en place des microcrédits. Et encore une fois, un terme que je n'aime pas beaucoup. Parce que chaque fois qu'on dit il s'agit des femmes, des filles, on dit micro. Alors, qui prend macro? Les hommes, quand on vient à la banque, pour les femmes, on dit microcrédit. Pour les hommes, on dit macro. Et pourquoi? Alors, tout ça, ce sont des aberrations. Tout ça, c'est anti-féminin, je veux dire. Donc, il faut donner ce pouvoir économique aux femmes. Il faut donner le pouvoir social aux femmes. Cela ne veut pas dire qu'on va faire tomber l'homme de son piédestal. Cela veut dire simplement qu'il doit se rabaisser et se mettre au même niveau que sa femme et travailler ensemble face à la nature, face à la pauvreté, face aux maladies. C'est ça que nous demandons, c'est ce que nous voulons. Mais ça, c'est une lutte qui va aller, comme la lutte contre les mutilations génitales. Mais c'est inexorable. Ce qu'on fait, c'est de l'accélérer, c'est tout. Mais c'est inexorable que les filles qui sont là aujourd'hui, les adolescentes, les jeunes, vont dire non à beaucoup de choses et vont dire non à la domination de la jeune femme féminine.
Voilà. Alors, espérons que vous soyez entendus tous azimuts dans le monde entier, parce qu'hélas, c'est une pratique qui persiste encore dans le monde entier. Donc, espérons que le message sera entendu.
Absolument, merci beaucoup. Et je voudrais vraiment, sur cette base d'espoir, moi je suis convaincu, c'est plus que l'espoir. Je suis convaincu pour avoir suivi ce mouvement depuis 36 ans maintenant. Et en regardant un peu derrière, je vois que ça bouge, je vois que ça avance. Et nous devons continuer sans relâche. Et les jeunes générations qui vont prendre la relève vont continuer. Et je voudrais rappeler que les Nations Unies fixent 2030 pour la fin des mutilations génitales féminines dans le monde. Alors là, je ne suis pas convaincu.
C'est
mais
un peu optimiste, oui. Dans 10 ans, ça fait peu.
Je suis optimiste. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs là qui ne dépendent pas de moi. Mais c'est le lieu de féliciter tous nos partenaires, y compris les Nations Unies, qui ont voté en 2012 la résolution contre les mutilations génitales féminines. Il faut le rappeler.
Oui.
Donc les Nations Unies sont à saluer, les partenaires sont à saluer, les populations sont à saluer, les chefs d'État qui ont pris le protocole de Maputo en Afrique sont à saluer, les femmes sont à saluer, tout le monde est à saluer, mais encore faudrait-il que l'on continue le combat, la lutte continue.
Très bien docteur, merci beaucoup alors et bon courage à vous.
Merci à la déchevelée.
Notez que plus de 4 millions de filles dans le monde risquent de subir cette année des mutilations génitales féminines. Et d'ici à 2030, ce sont quelque 50 millions qui pourraient en être victimes. Même si la tendance est en baisse dans plusieurs pays, des poches de grande résistance persistent, notamment en Somalie, en Guinée, à Djibouti et au Mali. Voilà, n'hésitez pas à réagir à ce magazine en m'envoyant par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi nous laisser des messages écrits ou parler via WhatsApp. Notre numéro, c'est le +49 160 97 08 33 48. Je répète, +49 160 97 08 33 48. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce club comme tous nos magazines en podcast sur notre site internet. Tapez tout simplement dw.com/français et allez dans la rubrique médiathèque. Sur ce, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir et à très vite.